dans la nuit. Chantal Bally, bonsoir à tous, bienvenue et merci de partager cette soirée avec nous. Pour nous rejoindre et entrer dans le dialogue, le téléphone 01 56 56 44 00. Notre invité ce soir est Pascal Parinet, psychanalyste, gestalt-thérapeute et formateur en relations humaines. Au sein de l'Institut de formation Psychrétien, avec Marie-Laurence, son épouse, il propose, à travers des parcours qui sont adaptés aux situations diverses de chacun, une aide thérapeutique qui permet de se réconcilier avec soi-même dans toutes les dimensions de son humanité et avec les autres, dans la recherche d'une disponibilité plus grande à l'accueil de l'action de Dieu dans la vie de chacun. Pascal Parinet, bonsoir.
Bonsoir Chantal, bonsoir à tous les auditeurs.
Alors notre sujet de réflexion et de partage ce soir, comment gérer la timidité et l'image de soi? Oui. Alors, la timidité est donc en lien avec l'image de soi.
Voilà, c'est presque un pléonasme. Simplement, la timidité, on peut dire que c'est une petite gêne.
Oui.
Et après, que ça peut aller à des aspects beaucoup plus graves, comme les phobies sociales ou autres. Donc... voilà, j'ai séparé les deux pour... on va parler d'abord de la timidité,
oui.
Ce qui concerne un peu presque tout le monde, plus ou moins, mais beaucoup de personnes en tout cas. Et puis après, on parlera plus du rapport à l'image de soi.
Alors, donc, qu'est-ce que la timidité?
Alors, c'est d'abord un sentiment d'insécurité que certains ressentent quand ils sont dans une situation où ils se sentent exposés. Ça ne veut pas dire qu'ils sont réellement exposés. D'ailleurs, parfois, c'est juste de parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas.
Mm-hmm.
Mais voilà. En tout cas, la personne va se sentir insécure parce que pour elle, elle a le sentiment d'être exposée.
Voilà.
Voilà. Alors, ça peut être de devoir parler à un inconnu, comme je disais, de téléphoner. Il y a des personnes qui ont du mal à téléphoner à quelqu'un, de parler en groupe, de parler en public, de parler à la radio. ça, c'était au début.
Au début, oui, voilà, c'est ça. Mais
après,
après
s'habitue.
Voilà, et ça fait partie de la thérapie.
Oui,
pour guérir la timidité,
oui. L'expérience, l'habitude,
oui, oui.
Est un bon remède.
Mm.
Voilà, ça peut être pour certains, de, non pas forcément de parler, mais de faire quelque chose, de travailler par exemple avec son chef qui est à côté, ou travailler, ou de jouer d'un instrument, je pense à ce... aux jeunes au conservatoire, par exemple,
oui.
qui passent un concours, voilà.
Et ça veut dire que ça c'est des situations qui varient selon chacun.
Ça va varier selon chacun. Ça va être plus ou moins généralisé, c'est-à-dire que ceux qui ont du mal à parler en groupe, en public, ils auront souvent du mal à parler à un inconnu. En général, ils s'en sortent un peu mieux avec les amis en tête à tête ou avec
quand
ou
on
avec
connaît
la famille,
dans un cadre
avec un cadre connu. Bien connu.
Oui, d'accord. Il y a un côté un peu de l'inconnu qui.
Alors, il y a un aspect de l'inconnu ou en tout cas. On verra d'un sentiment d'obligation de devoir soit faire quelque chose, soit parler, qui va engendrer cette insécurité.
Mmh.
Voilà, après, tout le monde sait à peu près ce que c'est. Hein. La personne va ressentir un manque de confiance, un manque d'assurance. Elle va être maladroite, embarrassée. Elle va ressentir une gêne.
Mmh.
Elle sera plutôt en retrait. Hein. Les timides, en général, sont plutôt en retrait, peu s'exprimer, va pas donner son avis et va suivre les autres. Alors parfois, ils se sentent coupables après. Ça arrive assez souvent que des personnes timides s'en veulent de ne pas avoir donné leur avis, par exemple pour une sortie ou aller dans un restaurant plutôt qu'un autre.
Donc d'avoir suivi et de ne pas avoir...
Voilà, ils n'ont pas osé donner leur avis. Et après, une fois que c'est passé, ils se sentent coupables. J'aurais dû dire...
D'accord. Voilà. Alors, donc, oui, comment la personne vit-elle dans ce cas, la situation ou la rencontre quand elle est...
Voilà, il y a deux aspects. Il y a un aspect de contrainte. Il faut dire quelque chose. Voilà, quand on parle en public ou quand on est dans un groupe, la personne se sent obligée. Alors, en public, oui, il y a une obligation. Mais devant un groupe, en groupe, par exemple, avec des amis... Elle va se sentir obligée de devoir parler. Et puis, elle ressent un danger. Danger qui correspond, en gros, comment je vais être, est-ce que je vais bafouiller, qu'est-ce qu'on va penser de moi. Donc, qui, là, concerne l'image de soi.
D'accord. Alors, quand la timidité s'installe-t-elle en général
Alors, ça peut commencer dès l'enfance. Il y a des enfants qui sont déjà un peu timides. Le plus souvent à l'adolescence, ou après, on pourrait mettre ça à peu près en même temps aussi que la pudeur. La pudeur s'installe vers 8 ans, 8-10 ans. Et la timidité, souvent, chez les enfants, va commencer à s'installer plus fortement, en tout cas vers ces âges-là, à peu près à la même époque.
Il y a entre pudeur et timidité une correspondance ?
Alors, la pudeur, elle concerne le corps. La timidité, plutôt l'image de soi. Même si le corps participe dans l'image de soi. Mais la pudeur, ça concerne vraiment l'intimité, son intimité.
C'est ça.
Alors que la timidité, c'est plus la relation aux autres, comment on va être perçu par les autres.
Alors, comment ça se manifeste comment ça peut évoluer
Des choses qui sont importantes, c'est que en général, ça diminue au fur et à mesure qu'on vieillit.
Donc, une bonne nouvelle.
Soit chez l'adolescent timide, ça passe, au lycée ou en fac. Soit si ça dure à l'âge adulte, plus on vieillit et moins on est timide. Prendre l'assurance.
L'expérience aussi, donc ça.
Oui. Alors, autant il y a des personnes qui peuvent être timides à 20, 30 ans, autant 40, 50 ans, il y en a beaucoup moins globalement.
Oui, il y a des situations, peut-être l'adolescence, où on est peut-être gauche et tout ça.
L'adolescence, c'est vraiment la période, on pourrait dire, maximale, même si ça peut continuer encore après. Mais c'est là où on est à la recherche de son image, de son identité. Le jeune, il y a beaucoup de transformations, il y a beaucoup de mouvements émotionnels, il ne sait pas trop comment faire, il ne maîtrise pas tout ça. Et c'est là où vraiment ça c'est à son maximum.
Oui.
Et puis chez certaines personnes, ça va s'installer et durer. Et il y a des personnes comme ça qui peuvent rester timides à 30, 35 ans, voire 40 ans.
Ça peut être passager ou chronique, on peut dire.
Alors, voilà. Il y a une phase souvent un peu de timidité, de réserve à l'adolescence. Et puis quand cette phase est très importante, ou peut-être quand elle s'est installée tôt et qu'elle a duré toute l'adolescence, à ce moment-là, elle devient plus ou moins chronique. Mais même chronique, ça peut s'améliorer. Voilà, et puis elle se manifeste plutôt dans les situations inhabituelles. donc un peu inconnu pour la personne, et qui vont être vécus comme une exposition au regard des autres.
Quelque chose d'inhabituel, oui. Ça,
voilà.
J'ai l'impression que, oui, c'est, on est
exposé au regard des autres. Ce qui fait que la personne timide va chercher à éviter toutes les situations nouvelles. Ou tout nouveau groupe, par exemple.
Oui.
Une personne timide aura du mal à aller dans un groupe qu'elle connaît pas, à s'intégrer dans un groupe. Elle va éviter un peu tout ce qui est nouveauté pour éviter de déclencher son mal-être.
Mmh. C'est vécu comme un malaise, un mal-être.
Voilà, comme un sentiment d'être mal à l'aise. Mmh. Comme quelque chose qui ressemble à l'anxiété aussi, la personne se sent anxieuse, elle appréhende la situation, elle a peur, et puis, alors parfois, quand ça vire à un versant plus pathologique, ça, c'est des crises de panique, par exemple.
Oui, ça peut aller jusque-là, oui.
Voilà, mais là, on rentre vraiment dans quelque chose qui est plus pathologique que de la...
Qu'une simple timidité.
Mmh.
Et ça s'accompagne aussi, bien sûr, de
manifestations. Manifestations physiques, comme rougir. Voilà, les personnes timides rougissent dès qu'elles parlent, par exemple, elles vont rougir. Elles vont avoir la voix qui tremble, elles vont avoir les jambes qui flagellent, le cœur qui bat à toute vitesse. Enfin, il y a tout un tas de...
tout ce qui est émotionnel, quoi.
Tout ce qui est émotionnel, qui va envahir. Mm. Émotionnel et physique aussi. Mm. Enfin, vraiment avec des sensations et des troubles physiques qui vont envahir la personne. Et finalement, plus elle se concentre sur, ou elle porte son attention sur ses signes physiques, et plus ça s'amplifie.
Oui. Alors, ces situations aussi, ça peut varier aussi. On peut être retenu dans une situation et pas dans l'autre.
Voilà, pour certains, ça va être les petits groupes, les groupes d'amis. Pour d'autres, ça va être les personnes inconnues. Pour d'autres, ça va concerner plutôt la sphère privée, et ils seront à l'aise dans leur dans la sphère professionnelle parce qu'ils maîtriseront bien leur travail, par exemple. Et puis d'autres, ça va être ils seront à l'aise dans leur environnement familier et pas à l'aise dans le travail. Il y a un aspect qui est de maîtrise aussi, c'est-à-dire là où on a l'impression de bien maîtriser, finalement ça joue sur la timidité, on est moins timide. Et on voit quelqu'un, par exemple dans le milieu professionnel, quelqu'un qui maîtrise parfaitement un sujet, il n'aura pas de mal à en parler, ou beaucoup moins de mal qu'un sujet qu'il aura l'impression de moins maîtriser.
Oui.
Sa timidité va ressortir.
Donc voilà, donc ça peut se manifester, c'est variable. Hein,
c'est très variable,
selon les personnes.
Voilà, les auditeurs pourront nous dire où ça se manifeste.
Voilà, c'est ça. Alors, donc... forcément, c'est une source de souffrance.
Hein. Oui. Quand ça devient trop important ou invalidant, ou que ça pose problème, à ce moment-là, il faut consulter pour faire un travail sur soi et puis s'en libérer. Parce que la timidité, on peut en guérir,
oui.
Voilà.
Facilement.
Relativement facilement. Alors, on ne deviendra pas forcément un grand bavard, mais, mais en tout cas, ne plus appréhender les situations.
Parce que ça va avec le mutisme aussi. Enfin, c'est un signe, pas forcément.
Ça va. Alors, la personne timide va plutôt être en retrait et peut parler.
Oui.
Parce qu'elle le vit comme un danger. Mais le mutisme, c'est vraiment un repli sur soi. La timidité,
c'est un retrait.
C'est un retrait, oui. c'est pas un repli sur soi.
Mmh. Ouais. Oui, c'est il y a une nuance.
Ouais.
Un grand merci, Pascal Parinet. Donc, nos auditeurs sont invités aussi à nous rejoindre au 01 56 56 44 00, puisque nous parlons de la timidité ce soir. Voilà, si c'est votre cas dans tel ou tel domaine, peut-être que...
Voilà, la timidité, le regard des autres aussi, puisqu'on va après étendre à l'image de soi.
Un grand merci. Nous allons écouter ces Zazie qui chantent L'ange blessé.
Radio Notre-Dame.
Thank you.
Voilà, c'était Zazie, hein, l'ange blessé. Eh bien, nous parlons ce soir de la timidité et de l'image de soi. Comment gérer la timidité et l'image de soi? Alors, nous avons vu que, bien sûr, que la timidité, ça peut se guérir. Hein.
Oui.
Alors, comment la vaincre?
Alors, la première chose, c'est de réaliser que quand on est timide, qu'on n'est pas tout seul.
Oui.
Et que, non, parce que le timide croit qu'il n'y a lui.
Qui
vit mal la situation.
Oui.
Et qu'il n'y a que lui qui est timide. Mais non,
des
timides, il y en a des millions sur Terre.
C'est ça, voilà. Donc, c'est rassurant.
Des milliards.
C'est rassurant, alors. Donc,
oui. Et puis finalement, pratiquement tout le monde est intimidé par une situation nouvelle
ou
par le fait de parler à quelqu'un, un inconnu, par le fait de parler en public ou à quelqu'un qu'on estime professionnellement ou qu'on voit un peu comme un modèle.
Ça peut intimider.
Voilà, et toutes les personnes vont être intimidées, quelles qu'elles soient. À partir du moment où il y a cette notion de soit d'inconnu, soit d'une personne modèle, par exemple.
Mm-hmm. Voilà, donc...
Voilà, autrement dit, à chaque fois qu'on met un enjeu sur le fait de s'exprimer, eh bien, on va ressentir une certaine timidité.
Et ça, c'est lié à un enjeu.
Voilà. Alors l'enjeu, ça peut être d'être à la hauteur, ça peut être de dire quelque chose d'intéressant. Beaucoup de personnes ont peur que ce qu'ils disent, ça ne soit pas intéressant. Mais finalement, quand on regarde, quand on se réunit, on parle de quoi? De la pluie, du beau temps, des grèves de train.
circonstances, voilà. Oui. Selon l'actualité, oui.
Selon l'actualité, on n'est pas sans arrêt en train de dire des choses intéressantes, passionnantes, ou je ne sais pas trop quoi. On parle de, du quotidien. Mais la personne timide va se dire, mais si je parle...
De la pluie
et du beau temps, on va me trouver inintéressant. Voilà. Peut-être c'est de prendre conscience que aussi c'est une façon d'entrer en contact. Quand un groupe se réunit, par exemple, ils commencent à parler de banalité ou de ce qu'ils ont fait la veille pendant leurs vacances ou je sais pas quoi. Et puis au fur et à mesure de la soirée, il va y avoir des choses plus intéressantes, plus personnelles. Ça se fait naturellement. Mais on n'entre pas en pré-contact, on appelle ça le pré-contact en gestalt. C'est-à-dire le moment de l'entrée en relation, il se fait souvent par des choses assez banales, assez ordinaires. Oui. Et c'est seulement après, quand il y a un vrai contact, une vraie relation, alors pour le coup un peu plus intime, que les choses importantes peuvent se dire.
Mm-hmm. C'est logique. Hein.
Voilà.
Et qu'on peut se livrer davantage.
Et qu'on peut se livrer davantage.
La profondeur de son être.
Voilà. Alors, c'est vrai dans les groupes, c'est vrai quand on téléphone, on ne commence pas par dire des choses importantes. On commence par dire bonjour, je vous dérange pas. Et puis après, on peut enchaîner sur des choses. Mais il y a besoin de ce temps de pré-contact un peu banal, mais qui permet d'entrer en relation.
Oui, c'est ça. Donc c'est... Et si on le néglige, parce qu'on trouve que c'est banal,
la personne timide,
on reste timide,
va pas oser parler parce qu'elle aura peur de pas être intéressante ou pas savoir vraiment quoi dire. Et puis à l'inverse, d'autres personnes, ils vont dire tout de suite une chose qui leur paraît importante ou intéressante, et ça risque de tomber un peu comme un cheveu dans la soupe.
Parce qu'il faut justement établir le contact.
Voilà, il faut d'abord établir le contact.
Donc ça, ce sont des choses qui s'apprennent ou qui sont innées, mais
Voilà, alors, innées ou qu'ont été apprises au fur et à mesure dans l'enfance, dans la scolarité.
Oui, bien sûr, une partie de...
Et pour d'autres, ben, ça a été plus difficile, peut-être parce qu'ils ont vécu des situations un peu exposantes ou... qui les ont bloqués, et du coup, après, ça devient plus difficile.
Il y a une... Un peu, il peut y avoir une inhibition qui s'installe.
Oui, la timidité, c'est une inhibition, hein, finalement. Oui. C'est
un blocage.
Un blocage lié à la peur, à la fois l'obligation et la peur de parler ou de s'exprimer d'une façon ou d'une autre.
Voilà. Alors, donc.
Alors, ça, c'est le premier aspect. C'est tout le monde.
Tout le monde
est intimidé en fonction des situations, plus ou moins, voilà.
Et chaque fois qu'on met, un enjeu.
Voilà, donc c'est normal.
Un deuxième aspect,
ce qui fait peut-être la différence, c'est que la personne timide va vivre ce malaise du pré-contact comme un défaut ou comme une faiblesse.
Ah oui.
Et du coup, elle va commencer à juger, à s'auto-observer et à amplifier. Mais ce qu'elle, en même temps, elle en oublie tous les aspects positifs. Par exemple, quelqu'un de timide, il ne sera pas orgueilleux.
Oui.
Donc c'est positif. Il ne va pas dire n'importe quoi. Justement parce que il se retient,
il ressent le besoin de dire des choses profondes.
Voilà, donc il dira pas n'importe quoi. Il sera digne de confiance aussi, parce que en général, quelqu'un de timide, il va pas aller raconter à tout le monde ce qui s'est dit. Mais le fait d'être digne de confiance, c'est pas forcément lié à la timidité. C'est pas parce qu'il n'ose pas parler. C'est parce que il a ce vécu-là qui fait que peut-être il a un respect plus grand pour la parole, pour ce qu'il se dit, pour les autres.
Donc tout ça, c'est positif.
Voilà, il sera à l'écoute des autres. Souvent, par sa position un peu en retrait, il sera souvent à l'écoute des autres. Donc finalement, plutôt qu'une faiblesse, c'est aussi, il y a aussi plein d'aspects positifs.
Qu'on ne voit pas, que le timide ne voit pas.
Alors, que le timide ne voit pas parce qu'il se juge et parce qu'il regarde sa façon de s'exprimer comme une faiblesse.
Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire, alors ?
Alors, la première chose à faire, c'est de se décentrer de toutes les sensations. Dans la timidité, la personne, elle est un peu comme divisée, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui observe et une partie qui va essayer de parler. Le problème, c'est qu'on peut pas faire deux choses en même temps. Enfin, on peut pas les faire bien. On peut pas s'observer et parler en même temps. Et du coup, c'est important de se décentrer de cet aspect d'observation et de toutes les sensations, en quelque sorte, liées à la timidité. De façon à pas être envahi par la peur, par l'angoisse, par les battements du cœur. C'est pas la peine de se centrer sur son cœur qui bat vite.
Oui, ça ne fait qu'amplifier les choses.
Parce que ça fait qu'amplifier les choses.
Oui. Et alors donc, en se décentrant de tout cela, on va se centrer sur...
Sur l'environnement, sur être en contact avec les autres.
Sur le côté
finalement,
entrer en contact,
Le moment de timidité, on perd le contact. Où on n'arrive pas à entrer en contact.
Avec l'autre, avec les autres.
Voilà. Et du coup, en se décentrant de cette position d'auto-observation, on va pouvoir entrer en contact avec les autres. Alors, mais peut-être avant ça, il y a de prendre un temps pour respirer, par exemple. Oui. Voilà, faire quelques respirations quand on a à s'exprimer en public et qu'on appréhende,
ça détend la respiration, ça
détend, ça remet en contact avec son corps, mais non pas dans l'appréhension, mais dans une ouverture.
Oui.
Voilà, donc ça va détendre. Faire quelques mouvements aussi pour se sentir bouger, plutôt que de se sentir paralysé ou avec les jambes un peu en coton, de bouger, de faire des mouvements, ça permet de se réapproprier son corps.
Et d'entrer en contact avec l'environnement, vers le sol.
Concret, de sentir le sol sous ses pieds. Parler à quelqu'un avant de s'adresser à un groupe, par exemple, de prendre le temps de dire bonjour à quelqu'un ou de parler 2-3 minutes avec quelqu'un.
Oui.
Ce qui fait qu'on est déjà dans un contact et c'est plus facile de le continuer en s'adressant au groupe que d'arriver d'entrer à s'exprimer devant le groupe.
Ça apprivoise quelque part, ça a mis en route.
Voilà, on s'est mis en route, oui. Oser dire qu'on est impressionné. Par exemple, quand on est devant un auditoire nombreux, dire « je suis impressionné, vous êtes nombreux ». Voilà, et ce qui peut être vrai. Voilà, enfin, il faut le dire si c'est vrai, d'ailleurs.
Oui,
si
bien
c'est
sûr.
Pas vrai, ça sert à rien.
Mais oui, oui.
Ou de dire je suis impressionné, par exemple, quand on prend la parole après quelqu'un qui est charismatique au niveau langage, qui est très à l'aise, de dire je suis impressionné de passer derrière cette personne qui s'exprime très bien. Voilà. Ça permet de dédramatiser la situation. De créer une empathie aussi avec le groupe, l'auditoire, qu'ils comprennent, parce que, bien sûr, s'ils étaient à la place de la personne, ils seraient intimidés aussi.
Oui, c'est ça. Oui, mais ils peuvent se mettre plus facilement à la place de la personne.
Et puis, ça permet, plutôt que de se centrer sur son anxiété, de dire, je suis impressionné, je suis ému devant vous.
D'exprimer déjà.
De l'exprimer, ce qui fait que ça passe.
Plutôt que de le garder pour soi et voilà.
Voilà. Et le problème du timide, c'est qu'il garde pour lui et il s'enferme dans ses sensations. Et du coup, elle s'amplifie.
Alors ça fait caisse de résonance.
Voilà, ça fait une caisse de résonance. Et alors que de dire « je suis ému, je suis impressionné », ça permet de sortir de les exprimer, de le sortir et d'enchaîner.
Oui. Et c'est bien perçu par...
Et c'est toujours bien perçu. Et d'enchaîner après sur ce qu'on veut dire.
Alors donc, des petits moyens, des petits trucs pour... Alors, qu'il y a encore qui puisse...
Il en reste pas moins vrai que la meilleure façon de vaincre la timidité, c'est l'expérience. Et donc, c'est finalement d'expérimenter des situations pour apprendre à les gérer. Parce que la timidité, comme on n'expérimente pas, on ne sait pas comment on va gérer. Et quand on expérimente, on apprend. Donc, c'est la meilleure façon. Je pense par exemple à des jeunes qui doivent passer une soutenance ou passer un oral, ça va bientôt être les oraux, qui sont timides, de s'entraîner par exemple avec des amis ou avec sa famille, de s'entraîner à parler à un public,
à exprimer,
sur un sujet, de façon, pour les oraux c'est un peu plus compliqué parce que on tire un peu au sort, mais pour une soutenance par exemple où la personne va s'exprimer ou pour une présentation professionnelle, de faire une répétition en quelque sorte pour pour mieux maîtriser ce qu'on va dire. C'est ce que font les acteurs.
Les
acteurs,
répètent,
ils répètent.
Pour être à l'aise, pour être à l'aise,
bah oui. Pour maîtriser leur rôle qu'ils ont à jouer.
Bah oui, là, il vaut mieux, puisque ça fait
voilà.
Pas...
Alors eux, c'est leur travail.
Oui, c'est leur travail.
C'est leur travail, mais n'empêche, ils répètent.
Leur travail, c'est beaucoup travailler pour être à l'aise.
Voilà. Oui. Et du coup, ils répètent. Ben voilà, on peut faire ça. Et finalement, ils apprennent leur rôle. Alors, il y en a qui sont très doués, mais la majorité, par la répétition, donc par l'expérimentation, du rôle. Mmh. Ben, de la même façon, on peut apprendre à vaincre la timidité par la répétition et l'expérimentation.
Mmh. Merci Pascal Parinet. On va poursuivre dans quelques instants. Donc nous parlons de comment gérer la timidité et l'image de soi. Le téléphone pour nous rejoindre 01 56 56 44 00. Nous écoutons tout de suite, c'est Joe Dassin qui chante « Et si tu n'existais pas ?»
Radio Notre-Dame.
Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais, pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour, comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais, des passants endormis dans mes bras que je n'aimerais jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va, je me sentirais perdu. J'aurais besoin de toi. Tu n'existais pas, dis-moi comment j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé, le secret de la vie. Pourquoi ? Simplement pour te créer et pour te regarder. Et si tu n'existes pas, dis-moi pourquoi j'existerais, pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour, comme un peintre qui voit.
Voilà, c'était Joe Dassin, « Et si tu n'existais pas ?» Voilà, ce soir, avec Pascal Parinet, nous parlons de la façon de gérer la timidité et l'image de soi. Et donc, vous nous disiez, Pascal Parinet, que la meilleure façon de se débarrasser de la timidité, ça reste l'expérience. Voilà.
Oui. Oui, d'apprendre à maîtriser des situations.
Oui.
Voilà, et on disait qu'il y en a qui... On peut répéter un peu comme font les acteurs. Quand on a à s'exprimer devant un public ou devant un jury, de faire une répétition avec des amis ou en famille avant.
Voilà, pour s'entraîner.
Voilà, pour s'entraîner.
Ça devient plus facile.
Apprendre à maîtriser le texte, ce qu'on va dire. Et du coup, on a déjà tout cet aspect-là qui est déjà acquis pour le moment où ça va être réel. Voilà, et puis on peut s'entraîner de parler avec des inconnus, par exemple, dans des situations qui ne présentent pas d'enjeu. Mm-hmm. De façon
à s'entraîner aussi, sans que ce soit...
Sans qu'il y ait un danger, voilà.
Oui. Comment...
Par exemple, quand on va acheter son pain, de dire deux, trois mots
au boulanger,
sur n'importe quoi, d'essayer d'entamer une conversation ou à la caisse d'un magasin... ou de demander son chemin à un inconnu dans la rue. Voilà. Mm-hmm. Des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire, mais...
Mais qui ne présentent... Enfin, des choses banales, quoi.
Voilà, banales, qui ne présentent pas d'enjeu. Et du coup, de vérifier que c'est beaucoup plus facile qu'on croit de parler avec quelqu'un.
On entre en contact.
Mm-hmm. Voilà, et alors pas forcément sur des sujets... On raconte pas sa vie à son boulanger, mais voilà, parler du beau temps, de la pluie, qu'ils annoncent un refroidissement dans quelques jours.
Voilà,
et puis les choses vont s'enchaîner, et puis...
Voilà, les choses sont... Et donc ça permet de rompre la glace.
Voilà, de rompre la glace, mais surtout pour la personne timide, d'apprendre finalement à parler à des gens qu'elle ne connaît pas, à des inconnus, et de vérifier que ça se passe bien.
Oui.
Et cette expérience-là, elle peut la répéter comme un exercice, et un jour, elle aura plus de problème pour parler à un inconnu.
Ça sera fluide. Alors oui, d'autres possibilités pour s'entraîner, justement.
Il y a toutes les activités de loisirs en groupe, par exemple. Alors les sports collectifs, le service... dans l'église, par exemple, le bénévolat, ça peut être une façon de rencontrer d'autres personnes alors qu'au départ on connaît pas, et puis on va faire connaissance et petit à petit on va vaincre sa timidité comme ça.
C'est ça, oui.
Donc on pourrait dire toutes les activités en groupe de loisirs vont favoriser. Parce qu'elle va être canalisée par quelque chose, soit un sport, soit une activité. Et du coup, c'est plus facile d'être en contact avec les autres quand on a quelque chose à faire ensemble que dans une soirée où il n'y a rien à faire.
On a un but commun, on a une activité ensemble, donc c'est...
Ça canalise la parole.
Voilà.
Et du coup, c'est beaucoup plus facile.
Merci Pascal Parinet. On va écouter tout de suite, c'est Jean-Félix qui nous appelle depuis le sud-est de la France. Bonsoir Jean-Félix.
Oui, bonsoir Chantal, bonsoir Pascal Parinet.
Ah ben on entend l'accent, hein, qui chante, il y a beaucoup de soleil là dans votre voix.
Oui, je force pas, il y en a qui forcent, mais bon, je reste comme je suis.
C'est bien, alors dites-nous.
Oui, voilà, je voulais parler de ma propre expérience pour la timidité. Le simple fait, comme disait le psychothérapeute...
Oui, Pascal, Parinet, oui.
Oui, au début de l'émission, il parlait de le simple fait d'appeler au téléphone. Mais moi, il y a quelques années, c'était le cas. J'appelais... il y a des décennies que j'écoute Radio Notre-Dame par le biais de Radio Dialogue.
Radio Dialogue,
et le fait d'appeler au téléphone, c'était énorme pour moi. J'avais les pulsations du... Maintenant, c'est...
Mais la preuve, vous nous appelez, ça va.
Il y a peut-être d'autres timidités à combattre, mais je crois que ça vient par... je veux dire, il faut, comment dire, il faut pas, quand il y a des obstacles comme ça, bon, il faut les c'était un combat. Hein,
oui, et l'un après l'autre, là c'est déjà une victoire, là.
Oui, en plus, je sais pas, si on parle de, quand on parle de timidité, est-ce que c'est lié avec le trac aussi?
Alors.
Voilà. Il y a la honte, alors, est-ce que ça c'est lié avec la timidité?
Alors,
je pense que oui.
On pourrait dire que c'est le même phénomène. Alors, le tract, c'est l'entrée en scène, mais où l'acteur va être exposé devant un public. La personne timide vit en quelque sorte... La relation comme une entrée en scène. Vous voyez, c'est un peu ce que vit l'acteur, où là, il y a forcément un public et parfois très nombreux. La personne timide va vivre à peu près la même chose, même pour aller parler à un groupe de 3-4 personnes.
Ou
pour téléphoner.
La peur de ne pas être à la hauteur, c'est ça le fait, en fait.
Voilà, souvent c'est la peur de ne pas être à la hauteur. Alors, qui va prendre différents aspects suivant les personnes. Ça va être de dire des choses intéressantes, d'être intelligent, ou de bien s'exprimer, de pas hésiter quand on parle, vous voyez. Donc
oui.
ça peut avoir des aspects liés à l'intelligence, en quelque sorte, où la personne aura peur de pas paraître assez intelligente, ou alors sur la forme d'expression, de bégayer, de bafouiller. Et ça varie suivant les personnes, ou de rougir. Voilà, il y a des personnes qui seront plus attentives à la peur de rougir, ou à la peur de bégayer, ou à la peur de ne pas paraître intéressante.
Oui, voilà. Peut-être c'est le fait de dire, de parler à la radio ou avant, je ne voulais pas qu'on me passe à l'antenne, alors je dis non. Ou alors j'ai envoyé des messages, vous voyez.
Oui.
Mais là, vous avez...
Oui. Comment ?
Vous avez vaincu l'obstacle, là.
Oui. En plus, c'est un peu comme le film de Pierre Richard. Je suis timide, mais je me soigne, vous voyez. Bon, mais... c'est comique. Mais enfin, ouais. Ça montre un fond de... Il y a des fonds de vérité là-dedans.
Mm-hmm.
C'est comique, mais en plus, ça...
Mais justement, si des auditeurs ont peur, justement, de... Ça peut être un exercice.
Ça, adapté à la radio,
oui. Il n'y a pas d'enjeu, vraiment. Voilà.
Et moi, ça a été une thérapie de pouvoir parler à la radio par le biais de téléphone. Mais bon, il n'y a pas que d'autres émissions où j'ai pu...
intervenir aussi, oui.
Oui.
Donc et voilà.
Vous sentez comment?
Ben là, ça va.
Ça va, donc...
Vous êtes à l'aise, maintenant?
Comment?
Vous êtes à l'aise?
Oui, tout à fait.
Donc là, c'est une victoire, hein?
Oui.
Bon,
il y a peut-être d'autres timidités, pas dans ce domaine-là, mais bon, je ne les connais pas, peut-être qu'il y en a d'autres...
Mais écoutez...
L'inconnu aussi, je ne sais pas.
Oui, mais ça, c'est tout le monde, hein?
Oui, ça, j'en doute pas, c'est sûr.
Parce que le problème de la personne timide, c'est que souvent elle croit que y a quelqu'un qui est timide et que tous les autres sont à l'aise.
Et à la... Eh oui, c'est vrai.
Mais les autres sont pareils et ça se voit pas. Alors ça se voit quand une personne rougit, par exemple, on voit qu'il y a une émotion. Mais pour la majorité des gens, ils peuvent être complètement intimidés sans que ça se voie à l'extérieur.
Mm-hmm. Oui.
Vous voyez, donc, en tout cas...
Et c'est surtout ne pas se renfermer sur soi-même quand on est timide, comme ça. Au contraire, il faut aller vers les gens et c'est le moyen le fait de sortir. Plus parce que là, plus on reste... renfermé, plus on se bloque.
Oui.
Voilà.
Oui.
Et là, vous voyez ce que disait Pascal, de parler à son boulanger, de demander son chemin ou l'heure.
Voilà, des petites choses qu'on, où il n'y a pas d'enjeu, où on, voilà, où il y a des personnes qu'on se dit, bah, je peux faire l'expérience, de toute façon, cette personne-là, je ne la reverrai pas. Voilà, de demander son chemin ou demander l'heure dans la rue à un inconnu. Ce qui permet, ben, voilà, il n'y a aucun risque, on ne reverra pas la personne, elle peut penser n'importe quoi, on s'en moque, mais du coup ça permet d'expérimenter.
Voilà, oui. Merci, ben voilà. Oui, ben merci de ce, ben, d'avoir partagé ça avec nous ce soir, Jean-Philippe.
Ça a été un plaisir pour moi et voilà.
Et une victoire.
Oui, ben, j'encourage les auditeurs qui sont timides à appeler.
Voilà.
Vous voyez, voilà. À votre tour, vous encouragez. Ben, écoutez, merci en tout cas de ce témoignage.
Merci à vous.
Et puis, bonne route pour vous, de victoire en victoire par rapport à cette question.
Merci, bonsoir à toute l'équipe de Radio Notre-Dame.
À vous aussi, Jean-Félix. Au revoir.
Bonsoir.
Voilà, c'est un exemple. C'est vrai que...
Oui, mais il y a beaucoup d'auditeurs qui n'osent pas appeler. Il y a beaucoup de gens qui me disent, oh, je vous ai entendu par exemple, et qui me posent la question alors après, et qui disent, mais j'ose pas appeler à la radio.
Mais voilà un exemple de timidité.
Voilà. Parce que la personne, alors, imagine, je ne sais pas quoi d'ailleurs souvent, voilà, elle met en route un imaginaire qui lui fait appréhender la situation. Voilà, alors que c'est tout simple, on décroche son téléphone et puis on parle ensemble.
Ben oui, c'est pas plus difficile que ça. Alors voilà, ça c'est pour la timidité, mais comment est-elle en lien, Pascal Parinet, avec l'image de soi ?
Dans la timidité, il y a toujours la question de l'image de soi. C'est ce qu'on disait, de ne pas être à la hauteur, de rougir. Alors, ça peut être l'image physique ou l'image psychique, on pourrait dire, quand on parle de ne pas être à la hauteur.
Oui.
Mais ce qui est important, c'est en fait chacun a une image qui se fait de lui-même, qui est en partie consciente, mais il y a toute une partie inconsciente aussi.
Donc l'image de soi est constituée d'une partie consciente et inconsciente, c'est ça?
Voilà. Oui. Avec le désir pour tout le monde que cette image soit appréciée par les autres, finalement. Mais alors du coup, ça, dans la réalité, c'est un peu plus complexe. D'abord, l'image de soi, c'est pas monolithique, c'est pas force, c'est pas l'image qu'on voit dans le miroir, par exemple, où on se voit bien les contours. Mais ça va être plutôt une mosaïque de différents aspects, à la fois corporels. Voilà, alors il y a l'image qu'on perçoit dans le miroir, qu'on peut s'aimer, on peut ne pas aimer certains défauts par exemple. Il y a des aspects caractériels, on peut aimer ou pas certains aspects de son caractère. Il y a aussi des aspects de compétences, de capacités, c'est ce que je disais, par exemple, quand on maîtrise bien un sujet, on peut en parler plus facilement, ça rejoint la compétence. Et puis les aspects relationnels. Et dans tout ça, il y a des choses inconscientes et des choses conscientes.
Alors, on va y revenir dans quelques instants, bien sûr, et nos auditeurs sont invités à nous rejoindre au 01 56 56 44 00. Voilà, c'est un bon exercice, hein, comment gérer la timidité et l'image de soi, c'est le thème ce soir avec Pascal Parinet, psychanalyste et gestalt-thérapeute. Nous allons nous retrouver dans quelques instants à 23h.
Radio Notre-Dame.
Chaque semaine, le cardinal André 23 analyse les événements qui font l'actualité. L'entretien du cardinal, c'est tous les vendredis à 21h30 et le samedi à 8h47 sur Radio Notre-Dame.
Vous ne voulez plus cuisiner? Vous suivez un régime alimentaire? Ou vous avez simplement envie de repas savoureux et équilibrés?
Saveur et Vie livre à domicile vos repas personnalisés au 01 41 733 733. Nos diététiciennes vous proposent des formules souples, adaptées à vos goûts et à vos besoins. Saveur et Vie, bien manger pour mieux vivre. 01 41 733 733. Et sur notre site internet, saveurevie.fr. Livraison dans toute la France. Prestations ouvrant droit à réduction d'impôts.
Ah, c'est le livreur Saveur et Vie.
Regardez votre fenêtre. Vous ne voyez rien? Là, vous avez vu tous ces euros qui passent à travers? Hop là, en voilà un, et puis un autre.
Ne laissez plus s'envoler votre argent.
Et puis un autre.
Avec la Maison de la Fenêtre, changez pour des fenêtres qui vous isolent efficacement du froid et du bruit. En ce moment, la Maison de la Fenêtre vous offre 20% de réduction sur votre devis.
La Maison de la Fenêtre, un geste pour la planète, un vrai plus pour votre confort.
Appelez vite au 01 42 11 03 03 42 11 03 03.
Dans la nuit, il est 23h.
Radio Notre-Dame.
Ce soir, en compagnie de Pascal Parinet, psychanalyste et gestalt-thérapeute, formateur en relations humaines, nous parlons de comment gérer la timidité et l'image de soi. Alors, je ne sais pas ce que vous avez ces temps-ci ou bientôt... un stage qui va dans ce sens-là.
Voilà, on a un stage sur la confiance en soi.
Oui.
Confiance en soi et estime de soi. Donc, on est dans le thème, finalement, parce que la personne timide manque de confiance et a souvent une faible estime, qui est du 7 au 9 juillet.
7 au 9 juillet, oui.
Voilà. Alors,
Le contact ?
Le contact, alors le 06 60 15 79 60.
06 60 15 79 60.
Voilà, ou contact@psychretien.com.
contact@psychretien.com. Voilà, donc 7 au 9 juillet. Un stage d'été.
Voilà.
Donc, on parlait de l'image de soi. Hein. Vous nous disiez qu'il y a une partie consciente et une partie inconsciente. Hein, que ce n'est pas monolithique. C'est plutôt une mosaïque.
Une mosaïque de différents aspects de notre personnalité.
Corporel, caractériel,
de compétences, d'acquis, de connaissances,
et relationnel.
Voilà, et souvent on compare la personnalité à un diamant. Finalement, on n'en perçoit que quelques facettes, et puis il y a plein de facettes qui nous restent inconnues ou inconscientes.
Les autres, elles restent. Qu'est-ce qu'elles deviennent, les autres qui sont, elles sont dans l'inconscient.
Elles sont refoulées dans l'inconscient.
Ce qui est inconscient, c'est pas forcément refoulé, si. Tout ce qui est inconscient, c'est refoulé.
Oui.
C'est ce qu'on a refoulé.
Pas pris conscience.
Mais oui, c'est. Oui.
Par exemple, il y a des. On peut avoir des talents qu'on n'a pas encore expérimentés.
Oui. Mais ça, c'est pas refoulé.
Alors, c'est pas refoulé.
C'est pas exprimé. C'est pas advenu encore.
On n'a pas. encore exprimé, on n'a pas encore expérimenté. Dans ce cas-là, c'est pas refoulé, c'est simplement on n'a pas exprimé notre potentiel.
Oui, c'est ça. Mais c'est pas la même chose.
Non.
Au point de vue, parce que quelque chose qui est refoulé, c'est ça peut être comment dire un handicap. Enfin, tandis que quelque chose qui est pas exprimé, c'est bien sûr c'est arrivé au jour, mais
oui, mais le refoulement, c'est pas qu'un handicap.
Oui, le refoulement. Il y a
des aspects bénéfiques aussi au refoulement.
Ah oui.
Pour vivre en société.
Oui, bien sûr, oui.
Voilà. Alors, peut-être la différence, ce qu'on pourrait dire, c'est quand c'est refoulé, on n'en a pas conscience et parfois, pas toujours, parce qu'on vit tous avec plein de choses refoulées. Mm-hmm. Normalement, ça ne nous gêne pas. Mm-hmm. Voilà. Et puis parfois, il y a ce qu'on appelle du retour du refoulé, c'est-à-dire qu'il va agir à notre insu dans notre vie et là, nous créer des difficultés. Voilà, nous amener à faire des actes manqués, des échecs, ou d'avoir des comportements inadaptés.
D'accord, là c'est un retour du refoulé, ça veut dire que
ça veut dire que finalement, ce qui est refoulé arrive quand même à passer, mais d'une façon détournée.
Au lieu que ce soit exprimé et conscient, ça veut venir au jour, mais c'est...
Mais ça vient au jour d'une façon... L'idéal, ça serait que quand ça vient un jour, on en prenne conscience.
Voilà,
et qu'on puisse le gérer.
Oui.
Mais là, ça vient au jour, mais ça reste inconscient et ça agit malgré nous.
Oui, et donc de façon
chaotique. Voilà, et c'est là où c'est gênant. Sinon, on a besoin
De barrières, on peut dire.
De barrières, de refoulement. Ça nous permet d'être humain.
Oui, bien sûr. Hein? Oui, autrement, à l'état sauvage,
n'importe quoi.
Oui, oui, oui. Ouais. Donc le refoulement n'a pas que du mauvais s'il est bon.
Non.
S'il n'est pas, il n'y a pas un retour.
Ce qui est mauvais, c'est quand ça fonctionne mal et que du coup, il y a des choses qui passent d'une façon inconsciente.
Mais est-ce que, par exemple, donc refoulé, on parlait de refoulement, mais le déni, par exemple, c'est aussi quelque chose qui reste dans l'inconscient.
Alors oui, mais qu'est un autre mécanisme.
Mécanisme de défense, on peut dire.
Voilà,
tout ça.
Le refoulement, c'est un mécanisme de défense, le déni, c'en a un autre. Le clivage. Alors le refoulement, souvent on représente le refoulement comme quelque chose de vertical. On met le moi au-dessus et puis l'inconscient en dessous. Et la coupure de refoulement, en quelque sorte, ce serait une ligne horizontale qui vient séparer ce qui est en haut, ce qui est en bas. Le déni, lui, il se situe en vertical. C'est-à-dire, ça vient séparer ce qui est à droite de ce qui est à gauche.
Ah oui.
Et donc...
Dans
le déni, on est à la fois conscient et pas conscient.
Ah oui, d'accord. Il y a une part un peu...
Voilà, il y a une part où on sait, mais il y a une part...
Qui
refuse de savoir.
Parce que c'est gênant. Enfin,
parce que c'est gênant, parce que ça ne correspond pas
à l'image qu'on...
À l'image, à notre conscience morale ou à notre idéal.
Oui.
Et puis parce que aussi parfois c'est trop douloureux.
Parce que c'est trop douloureux, oui.
Et donc ça occasionnerait trop de souffrance et
on va le dénier. Alors, oui, ça c'est encore un autre...
Voilà, mais des mécanismes de défense, il y en a pas mal.
Alors, donc là, l'image de soi,
Voilà, et on disait que ben, c'est un peu comme un diamant où on perçoit que quelques facettes, finalement. Et puis, les autres ont également une image de nous qui peut correspondre ou pas à ce que nous percevons de nous-mêmes. C'est-à-dire, parfois, on a une image de soi qui est en accord avec ce que perçoivent les autres. Puis, parfois, il y a un décalage. Et ça ne correspond pas. Dans ce cas-là, ça veut dire quand même il y a un petit problème, parce que sinon, ça doit être à peu près homogène. Voilà, et quand on regarde l'image de soi, ben, finalement, il y a ce qu'on est, réellement. On pourrait dire complètement, avec tous les aspects de sa personnalité.
Conscient et inconscient.
Voilà. Il y a ce qu'on aimerait être. Il y a ce dont on a conscience d'être, c'est-à-dire la façon dont on se perçoit. Et il y a ce qu'on veut montrer aux autres, ou ce qu'on aimerait que les autres perçoivent. Et puis, du côté des autres, il y a ce que les autres attendent de nous, ce qu'ils veulent que nous soyons. Ce qu'ils ont attendu de nous dans le passé, par exemple au travers de l'éducation ou nos parents, qu'est-ce qu'ils ont... Ce qu'ils perçoivent aujourd'hui de nous. Et puis ce qu'ils projettent, alors pour le coup inconsciemment, sur nous. Et tout ça, ben, ça va jouer dans la façon dont on va se percevoir, mais aussi, surtout, dans la façon dont on va vivre cette image de soi. Autrement dit, est-ce que la personne, en fonction de tous ces aspects, aura une bonne image d'elle-même, ou et donc ça s'aimera avec un juste amour, ou alors aura une mauvaise image d'elle-même et ne s'aimera pas, ou alors aura une image surévaluée d'elle-même et s'aimera trop.
Ah oui, donc c'est ça, ça peut être surévalué ou sous-évalué.
Et l'idéal, c'est d'avoir une image assez juste de soi.
Alors on va écouter, je pense que ça va être... Parce que, donc André, vous êtes sur répondeur maintenant, on a dû vous appeler, mais on ne peut plus vous joindre. Alors je crois qu'on a Eliane. Eliane. Eliane.
Oui, bonjour.
Oui, bonsoir.
Bonsoir. Voilà, je voulais donc, comme je l'ai dit à la personne que j'ai eu au téléphone tout à l'heure, donner une petite anecdote qui m'est arrivée. Et donc, en fait, j'étais dans une situation où nous étions avec plusieurs personnes en réunion et les personnes se donnaient la parole en passant un micro, les unes après les autres. Et bon, normalement, je n'étais pas censée prendre la parole à ce moment-là. Et on me l'a passé, on m'a passé le micro. Et j'ai commencé un petit peu à parler pour ne pas... Voilà. Vous voyez, déjà, je suis timide, ça y est, je bafouille.
Non, on vous entend très bien.
Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été complètement paralysée. Et j'étais aphone, c'est-à-dire qu'en fait, aphone dans le sens où je ne pouvais dire plus aucune parole. J'étais paralysée complètement et je cherchais quelqu'un du regard. Ce moment m'a paru immensément long et je cherchais du regard une personne qui pouvait m'aider à extraire un mot de ma bouche, de moi-même.
Vous cherchiez de l'aide, quoi.
Et voilà. Et donc, il y a une personne qui s'est rendue compte, mais j'ai eu l'impression que ça a duré très, très longtemps. Et en fait, cette personne-là a commencé à parler, à prendre la relève, et elle m'a aidée, en fait.
Elle a compris la situation.
Elle a compris la situation. Et sur le coup, j'étais soulagée, naturellement. Mais après coup, enfin quelques minutes après, je me suis dit, mais franchement, qu'est-ce que j'étais sotte, j'aurais pu dire ça, et puis repasser tout de suite le micro à quelqu'un. Mais sur le coup, j'étais vraiment paralysée. C'était un blocage complet. C'était la première fois que ça m'est arrivé. Ça ne m'est plus arrivé après. Mais c'est vrai que maintenant, je pense souvent à cette anecdote-là. Et c'est pas évident parfois de se dépasser dans certaines situations. Voilà.
Oui, surtout que dans ce que vous dites, vous l'avez vécu comme une contrainte. C'est-à-dire que vous n'aviez pas envie de parler, ou en tout cas, vous ne vous attendiez pas à parler.
Tout à fait.
Vous avez été surprise qu'on vous passe le micro, et du coup, vous vous êtes sentie obligée de parler. Vous voyez, et c'est ça qui vous a paralysé d'une certaine façon.
Oui.
Si vous aviez simplement passé le micro à votre voisin, par exemple, il ne serait rien passé, ou peut-être quelqu'un vous aurait dit « vous ne voulez pas dire un mot », et puis là, vous auriez pu le dire. Mais c'est cet aspect de contrainte et de surprise et de contrainte qui vous a paralysé.
Oui. Mm-hmm.
Ce qui se passe, c'est qu'en fait, vous parliez de refoulement tout à l'heure. Bon, j'ai dû m'absenter à un moment donné, donc j'ai pas pu bien tout suivre. Et en fait, par moment, j'ai l'impression aussi que j'ai tendance à me dévaloriser, et particulièrement dans les situations où je ne devrais pas le faire. Mais c'est ça vient rapidement, comme ça, avec un ou deux mots, je peux me gâcher.
Ah oui, c'est ce
des situations, et après je me dis, mais pourquoi tu as dit ça, c'est ridicule, quoi. Et ça n'a rien à voir, en fait.
Oui, c'est un peu...
Je n'arrive pas à comprendre ces situations. Ça m'arrive rarement, mais parfois ça m'arrive.
Oui. Alors, il peut y avoir plusieurs aspects. C'est un peu... Alors, il y a ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à cette expérience. Après, vous vous êtes dit, je suis sotte, tout ça. Là, vous étiez dans le jugement et l'autocritique après coup. Et puis, il peut y avoir des fois où finalement, quand on a peur d'être dévalorisé ou quand on a peur de pas être à la hauteur, certaines personnes préfèrent se dévaloriser elles-mêmes plutôt que par crainte que ça vienne de l'autre. Vous voyez, donc ça, il peut y avoir cet aspect-là, et puis à d'autres fois, pour d'autres personnes, ça peut être un peu du sabotage, hein, de l'auto-sabotage. Il y a un enjeu important et on se dévalorise.
Pour
se mettre en situation d'échec.
Inconsciemment.
Voilà, inconsciemment. Parfois, ça peut être aussi qu'on n'a pas très envie. Et puis on se débrouille pour rater en se dévalorisant.
Voyez, mais quand on a très très envie de faire quelque chose et qu'on se dévalorise, alors par bêtement en deux mots parfois, pouf.
Parce qu'on a peur de ne pas être à la hauteur.
Je parle de ça parce que ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, et en fait j'avais l'impression qu'on allait me proposer quelque chose, et puis en deux, trois mots, je me suis sabotée complètement, quoi.
Voilà, c'est qu'il y a...
Je me suis dévalorisée alors que c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire. Et je me suis dit, mais bon, il faut que je reparle avec la personne pour lui dire, écoute, j'ai dit ça, mais tu comprends, voilà. C'est embêtant de revenir en arrière, quand même.
C'est embêtant.
Pas
forcément, non. C'est de dire, j'étais... Alors, il y a l'émotion qui peut intervenir aussi. Mmh. Quand on a très envie, qu'on met un enjeu important, à ce moment-là, on peut être ému. Et quand on est ému, on peut faire des loupés.
Ça fait partie de la timidité ?
Pas trop. Je pense que ça fait partie de facteurs inconscients que vous n'avez pas maîtrisés. C'est un peu ce que je disais. Il peut y avoir plein de raisons de se dévaloriser quand on a envie de quelque chose, mais c'est une façon de ne pas l'avoir. Je sais pas, peut-être il y a des facteurs inconscients
qui font barrage.
Ouais. Ouais. Mm-hmm. Ouais. Après, je ne peux pas vous dire comme ça. Hein.
Uh-huh. Voilà. Mais voilà, Iliane.
D'accord, mais écoutez, je vous remercie beaucoup.
Mais merci de ce témoignage.
D'accord, merci de votre témoignage.
Voilà, et puis alors, c'est vrai que par des activités, j'essaye de rencontrer beaucoup de monde pour dépasser cette timidité.
Ouais. Oui.
Voilà, et merci. Donc, voilà, donc c'est un moyen, je pense, aussi pour...
C'est ce que disait Pascal tout à l'heure. Hein,
Des activités de loisirs, ou en tout cas où on fait quelque chose avec les autres, ce qui canalise l'action et diminue de l'appréhension, la timidité.
Oui, voilà, tout à fait.
Merci de ce témoignage, Eliane.
Merci et beaucoup. À vous.
Bonne route.
Au revoir.
Bonsoir.
Bonne soirée, au revoir.
Au revoir. Voilà, je vous rappelle le téléphone pour nous rejoindre, 01 56 56 44 00. Comment gérer la timidité et l'image de soi? Donc en compagnie ce soir de Pascal Parinet, psychanalyste et gestalt-thérapeute. On se retrouve dans quelques instants.
Chaque jeudi, Paris Notre-Dame vous informe sur la vie de l'Église à Paris. L'accompagnement social, pour quelle libération? Un enjeu que décrypte François Le Forestier, membre de l'association Aux Captifs La Libération, à l'occasion d'un forum au Collège des Bernardins. Le journal a également interviewé le père Denis Jachier, curé de Saint-Séverin dans le 5e arrondissement, qui prendra ses fonctions de vicaire général pour le diocèse de Paris le 1er septembre. Abonnez-vous au journal du diocèse de Paris et profitez d'une offre spéciale en appelant le 01 78 91 92 00. Paris Notre-Dame, c'est aussi chaque semaine les programmes de Radio Notre-Dame et les coups de cœur de la rédaction sur des émissions de la radio et de KTO. Contactez le 01 78 91 92 00.
Bonjour, je suis Xavier Accard, rédacteur en chef du mensuel Prier. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous à l'École de la prière pour approfondir l'art de la prière.
À l'École de la prière, avec Xavier Accard et le mensuel Prier, tous les mercredis à 21h30 sur Radio Notre-Dame.
Rendez-vous de l'histoire.
Bonjour, ici Éric Picard. Je vous retrouve chaque semaine pour vous raconter l'histoire des chrétiens, les hommes et les femmes, connus ou non, dont nous sommes les héritiers.
Rendez-vous de l'histoire avec Éric Picard, tous les mercredis à 21h sur Radio Notre-Dame.
Bonjour, c'est Sophie de l'équipe du téléphone du dimanche. Quelles que soient les raisons qui y mènent, la prison est toujours une coupure d'avec ce qu'on aime. Tous les dimanches, depuis plus de 25 ans, Radio Notre-Dame accompagne les personnes détenues en permettant à leurs familles et à leurs proches de leur transmettre un message par la radio. Vous aussi, participez au téléphone du dimanche pour soutenir un de vos proches détenus. Vous lui offrez, par votre voix, les encouragements et l'espérance qui lui ouvrent un avenir. Votre message est un lien vital et précieux. Le téléphone du dimanche, une voix de l'extérieur pour ceux qui sont à l'intérieur. Retrouvez-nous chaque dimanche de 17h à 18h.
Radio Notre-Dame.
Ce soir, nous parlons de comment gérer la timidité et l'image de soi avec Pascal Parinet et vous au téléphone. Et nous écoutons tout de suite, c'est André qu'on a pu rejoindre. André, bonsoir.
Bonsoir Chantal, bonsoir monsieur Parinet.
Vous appelez depuis le sud-est aussi, oui.
Sud-est, c'est ça.
Oui, alors
oui. Voilà, alors je me retrouve dans tout ce que monsieur Parinet a développé. La seule question, c'est que en fait, moi je n'appelle pas pour à proprement parler, a priori, pour un problème de timidité, mais je me retrouve dans tout ce qui concerne la question de l'image de soi et des émotions, l'émotivité.
Oui.
Voilà, moi j'ai mis du temps à découvrir que je suis un émotif. Monsieur Parinet doit connaître, enfin moi j'ai retrouvé une association qui s'appelle les émotifs anonymes.
Oui.
Vous connaissez monsieur Parinet?
Oui.
Voilà.
D'accord.
Et pour moi c'était une révélation assez tardive, hein, parce que bon, j'ai pas donné mon âge au standard, mais je peux vous dire, bon, j'ai la soixantaine. Donc si vous voulez, moi c'est l'inverse, c'est-à-dire dans mon adolescence, même à la trentaine, me retrouvant avec un groupe, ou même un petit groupe, ou un groupe même nombreux, j'étais comme poussé à m'exprimer. C'était l'inverse, mais de façon, comme vous l'avez dit, de façon un petit peu désordonnée. Et c'est après que j'ai compris que j'avais un problème de d'émotivité à l'intérieur de moi, mal géré. Ça, c'est le premier point. Donc ça, j'y travaille, Dieu merci. Et le deuxième point, c'est que, si vous voulez, il y avait un problème de... Moi, je le traduis comme ça, un problème de mauvaise image de moi. Et si vous voulez aussi, je me suis retrouvé dans ce que vous avez développé de l'inconscient, Maintenant, je le sais, j'ai fait un travail thérapeutique, etc. Moi, j'ai découvert très tard, monsieur, j'avais plus de 50 ans, je crois, là, je ne sais plus, je perds un peu le repère, que mon père n'était pas mon père, si vous voulez, et il y avait un problème dans le couple. Bref, donc j'ai su tout ça très tard, et je me demande si mon inconscient, c'était pas ça, quelque chose que j'avais à exprimer de façon désordonnée, comme si j'avais besoin d'être reconnu. Maintenant, j'ai compris que, en fait, voilà, j'aurais voulu avoir un petit peu votre point de vue, même si c'est pas forcément un sujet que vous avez développé. Enfin, voilà.
Mais si vous voulez, vous avez donné, en tout cas pour l'aspect image de soi, voilà, vous-même la réponse par rapport à votre père, à ce besoin de reconnaissance. Donc, vous avez trouvé votre réponse.
Et vous pensez vraiment que ça peut être... je réfléchis tout haut en même temps. Je me dis, c'est super.
Oui,
bon, vous n'avez pas, vous étiez aussi psychanalyste, enfin, que vous aviez une ouverture sur l'inconscient. Vous ne pensez pas que ça pouvait, je parle au passé, être lié à ce besoin de reconnaissance
Tout à fait, oui.
Vous comprenez ce que je veux dire?
Mais peut-être même deux besoins. Le besoin de connaissance.
De
connaissance, tout court, de savoir. Parce que peut-être vous avez perçu inconsciemment que votre père n'était pas votre père. Donc, voilà, mais si ça n'a pas été dit, il y avait un besoin de savoir. Pour mieux comprendre ce que vous viviez. Et puis après, le besoin de reconnaissance, soit par lui, si vous viviez avec lui, soit par votre père biologique, vous voyez.
Oui, mais ça, là, c'est plus compliqué. Voilà. Je ne parlerai pas de mon père biologique ce soir à la radio, parce que ce serait un peu gênant. Mais voilà, ça c'est encore un autre. Enfin, en tout cas, vous avez bien cerné le problème. Je me permets, voilà, je pense que ce sujet, parce que moi je vois, si vous voulez, que dans les groupes d'émotifs anonymes, on retrouve toute la palette de l'émotivité. On a des timides, on a des gens qui voilà, les deux revers, vous comprenez, de la médaille.
Oui, bien sûr.
Je ressemble, pour ma part.
Voilà, mais votre exemple du départ de finalement de parler trop vite.
Oui, c'est ça.
Ça rejoint la timidité, mais en inverse. Hein.
C'est ça.
Finalement, dans un corps.
Alors que faire? Parce que vous avez, moi j'attends un peu du positif en vous appelant, parce que j'ai fait un travail quand même. Hein. C'est-à-dire que ce que j'ai beaucoup apprécié là, vous avez dit, mais en fait le timide, bon, bien sûr, c'est un mal-être quand même. Hein. Vous avez dit, il y a quelque chose à travailler. Mais vous dites qu'il y a du positif parce qu'il écoute, etc. Bon.
Ouais.
Alors moi, en quoi moi, j'ai un côté spontané, vous voyez. Mais en même temps, j'aimerais écouter et j'arrive pas. Il y a des choses que j'entends pas. Voilà.
Ouais.
Vous aviez juste un conseil, parce que c'est pas toujours... Voilà, un point de vue sur...
Mais il y a aussi du positif, c'est-à-dire que vous aidez les autres à vaincre leur propre timidité. dans un groupe, par exemple, quand il faut parler, c'est les personnes comme vous, elles permettent de démarrer, vous voyez.
C'est ça. Mais en même temps, je sens que j'ai besoin d'apprendre à me...
Oui.
Bon, vous avez bien compris, moi je vois l'émotivité derrière. C'est pas simplement de dire je vais gérer ma parole, dire les choses. Vous voyez.
Non, vous parlez parce que vous êtes émotif. Au lieu d'être bloqué, là, c'est le contraire.
C'est une façon pour échapper au ressenti émotionnel. Mais je crois qu'il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est d'apprendre à gérer ses émotions.
C'est ça, oui.
Voilà. Et le deuxième aspect, puisque maintenant vous avez repéré le mécanisme, de temps en temps, de vous dire, je vais rester un peu, je vais pas parler tout de suite.
C'est ma thèse, quand même.
Voilà.
Si vous voulez, c'est autant difficile... Moi, après, j'arrête, parce que je suis trop bavard, là, vous voyez.
C'est aussi difficile l'un que l'autre.
Mettre à la place du timide. Hein.
Ouais.
Mais c'est une assaise. Vous comprenez ce que je veux dire?
Ouais, ouais, mais c'est,
comme le timide, peut-être. Vous avez dit qu'il faut qu'il fasse un effort.
Qu'il expérimente. Expérimente.
Voilà. Et là, c'est dans le sens inverse. Il faut freiner.
Voilà, voilà. Alors, ce sera peut-être une autre émission.
Ben voilà, mais d'expérimenter un peu de silence.
Voilà.
Voilà, merci en tout cas, André,
merci
de votre témoignage.
Merci beaucoup de votre éclairage. Merci beaucoup. Bonne
merci
soirée.
Bonne soirée à vous aussi.
Au revoir.
Nous écoutons Marie-Thérèse. Marie-Thérèse?
Oui, allô? Allô, oui. Oui, bonjour Chantal, bonjour Pascal. Voilà, je téléphone parce que moi-même je suis une grande timide. Mais c'est pour dire qu'au fil de l'âge et en prenant un peu d'assurance, on arrive à se vaincre plus ou moins.
Oui.
Par contre, bon, je n'arrive pas à prendre encore la parole dans un groupe. J'ai du mal à prendre la parole dans un groupe, et ça, ou alors quand on me pose une question ou n'importe, mais je n'arrive pas à me lancer de moi-même pour parler. Voilà, ça c'est encore très dur. Par contre, bon, je crois aussi qu'il y a aussi il y a des blocages. Certaines fois, il y a des gens qui se sentent plus ou moins à l'aise. Et évidemment, le contact est plus facile.
Oui.
Mais il m'est arrivé dans un groupe de ne pas savoir dire quelque chose, je ne trouvais pas. Plus je cherchais mes mots, moi je les trouvais. c'est affreux parce qu'on se sent un peu, on se sent un peu paralysé, quoi. Autrement aussi, bon, tant pis, je n'osais même pas aller chez un commerçant, c'était épouvantable, j'étais trop timide.
Oui.
Par contre, dans ma jeunesse, j'ai fait un peu d'expérience, j'ai dû aller chez des voisins pour à Noël pour jouer le rôle du Père Noël.
Bah oui.
Ah bah voilà, oui.
Mais je me suis sentie complètement à l'aise parce qu'on ne me connaissait pas. Oui. J'étais cachée, donc j'étais pas du tout timide.
Oui.
Et je me suis dit, bon, je pense que le théâtre, pour ça, ça doit aider certaines fois.
Bien sûr,
ça peut aider, oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, il y a beaucoup d'acteurs qui
sont timides et
qui sont extrêmement timides, oui. Et quand ils jouent une pièce, ne le sont pas.
Oui, c'est ça. Je pense que...
Voilà, ou alors vous, c'était le déguisement du personnel, et, du Père Noël,
oui.
Et jouer le rôle du Père Noël. Voilà, parce que finalement on endosse une autre personnalité, c'est plus ça. Nous c'est plus nous et
donc c'est un dépassement
et,
de
voilà, et on s'autorise à montrer quelque chose qui n'est pas nous, alors que le timide, ce qu'il a peur, c'est de montrer quelque chose de lui. Voyez,
ça c'est vrai.
Oui, après, ce que je voulais ajouter, c'est dans les groupes, on a des sympathies, et tout le monde a des sympathies, et avec d'autres personnes où ça passe moins bien. Je crois que c'est important déjà d'aller vers là où vous sentez de la sympathie, de façon à ce que ça soit plus facile.
Oui, exactement, oui.
Et de pas vous sentir obligé dans un groupe d'aller vers des personnes que vous appréciez pas.
Oui.
Vous voyez, faut garder cette liberté-là.
C'est ce que j'ai fait. D'ailleurs, j'ai changé de groupe et j'étais beaucoup plus accueillie et je me suis sentie plus à l'aise après.
Oui.
Voilà, vous avez trouvé la bonne...
La solution.
Oui, parce que c'est pas la peine de... Vous voyez, autant il faut expérimenter, autant il faut pas se faire violence non plus. Et donc, aller vers ce qui vous convient, expérimenter avec des personnes qui vous conviennent dans un groupe où vous vous sentez déjà, il y a quelque chose de favorable.
Oui, j'essaie d'ailleurs. Et là, j'ai essayé de prendre le téléphone, c'est vrai, mais enfin, je reconnais que pendant l'attente, j'avais le cœur qui battait. Mais enfin, j'ai réussi à...
Ben voilà, vous avez dépassé cela. C'est un bon exercice aussi.
Voilà.
Et c'est pour dire à certaines personnes que, bon, on peut se vaincre certaines fois et...
Alors,
en prenant... Avec l'expérience et l'âge, on arrive quand même à se dominer davantage. Mmh.
Ce qu'on peut vaincre, c'est le frein. C'est pas soi-même.
Mmh. Oui, c'est ça. Le frein.
Vous avez dit, on peut se vaincre. Il ne s'agit pas de se vaincre soi-même, mais de vaincre ses freins.
Oui, c'est sûr.
Merci Marie-Thérèse.
Merci, au revoir Chantal. Au revoir Pascal.
Bonne soirée.
Bonne soirée, au revoir. Alors Pascal, vous nous disiez, Pascal Parinet, que dans cette image de soi, il y a ce que je suis, ce que j'aimerais être, ce dont j'ai conscience d'être, etc. Mais aussi ce que les autres attendent de moi, ce qu'ils ont dit attendre de moi, ce qu'ils perçoivent, etc., ce qu'ils projettent. Alors comment ne pas s'y perdre dans tout cela ?
Alors, je crois que ce qui est important, c'est de réaliser que l'image de soi, elle est en miroir avec son idéal.
C'est-à-dire ? Donnez-nous des exemples.
Voilà, dans Blanche-Neige, par exemple, la reine questionne un miroir magique pour savoir si elle est la plus belle. Mmh. Ce qui représente pour elle son idéal. Hein. Elle a choisi l'idéal de beauté, d'être la plus belle. Narcisse, lui, il voit refléter son visage dans un lac.
Oui.
Voilà, et en tombe amoureux.
De son image.
Voilà. Mmh. C'est aussi la beauté, là. Hein.
Oui, dans c'est ça.
Ces deux exemples. Oui. Mais ce qui nous intéresse, c'est que dans ce miroir, qu'il soit le lac ou le miroir, est censé se refléter une image idéale. Et c'est là où la personne se compare à cette image. Alors tout ça, ça se fait inconsciemment.
Oui, bien sûr.
Et du coup, comme c'est une image idéale, forcément, elle ne s'y reconnaît pas. Et elle ne va pas se sentir à la hauteur, elle ne va pas se sentir assez belle comme la reine. Et quand on regarde, tout ça, ça se finit mal. La reine, elle se transforme en sorcière et elle finit par mourir. Mm-hmm. Narcisse, il en meurt aussi. Et du coup, à chaque fois que on se compare à cette image idéale inconsciente,
on n'est jamais à la hauteur.
On n'est jamais à la hauteur et du coup, on le vit mal.
C'est mortifère, on peut dire.
C'est mortifère et en même temps, c'est un mécanisme qui est complètement inconscient.
Oui.
Et on pourra dire que chacun a un idéal auquel il se compare.
Oui, qui vient de loin.
Qui vient de la petite enfance.
Oui.
Alors, quand il est bien intégré, normalement, on va y retrouver les valeurs importantes, c'est-à-dire les valeurs qui vont nous guider.
Mm-hmm.
Ça se passe bien. Cet idéal, il est constitué essentiellement de valeurs et ça se passe bien, ça nous guide dans la vie.
Oui.
Mais là où c'est plus compliqué, c'est qu'il comprend aussi des aspects de personnification de ce à quoi la personne doit correspondre. Mmh. Et ces aspects, ils sont inconscients. Quand nous en percevons les valeurs, on n'en perçoit que la partie consciente.
D'accord.
Hein, quand on
les valeurs, donc, ils guident, mais il y a une partie inconsciente.
Il y a une partie inconsciente à laquelle, et là, qui est plus de l'ordre d'une image. C'est pour ça que ce miroir à laquelle on doit se conformer. Alors souvent, c'est une image de quelqu'un de parfait.
Les perfections, quoi.
Une image de perfection, d'idéal. Et du coup, comme c'est inconscient, c'est un peu pour ça que dans les contes, il y a le miroir magique.
Oui, qui permet de voir
ce
qu'il y a à l'intérieur, ce qu'on ne voit pas, oui. Alors, oui. Et donc, cette situation, elle est finalement, elle, c'est il y a un côté négatif parce que c'est figé, cet idéal, oui. Il est comme figé, alors que des valeurs, elles sont, elles guident, il y a de la vie dedans.
Elles guident des valeurs, ça serait un peu comme des balises le long d'un chemin,
qui aident,
à rester sur la bonne route.
Oui, et l'idéal.
Alors l'idéal, serait... lui, il nous renvoie une image de nous qui, du coup, est négative.
Par rapport à la hauteur.
Puisque c'est en comparaison, c'est...
Avec un modèle. C'est comme les top modèles, je veux dire, ce sont des images...
Finalement, la publicité utilise ces images-là aussi pour nous faire consommer.
Mais elles sont...
Mais en même temps...
Si on veut se comparer...
Du coup, on n'est pas satisfait de soi. Alors, dans la publicité, l'objectif, c'est, il y a le modèle, je suis pas satisfait, du coup, je vais acheter des produits pour essayer d'atteindre le modèle. Mais pour beaucoup de personnes, ça reste, je suis pas satisfait de moi, et puis et la personne vit avec ce mal-être.
Alors, on va y revenir dans quelques instants. Pour l'instant, on écoute, c'est Alain Souchon, cette fois-ci, qui chante « Allô, maman, bobo ». Quand on se fige sur une image, un idéal qu'on ne peut pas atteindre, ça fait mal.
Radio Notre-Dame.
Je marche tout seul le long de la ligne de chemin de fer. Dans ma tête, y'a pas d'affaire. Je donne des coups de pied dans une petite boîte en fer. Dans ma tête, y'a rien à faire. Je suis mal en campagne et mal en ville. Peut-être un petit peu trop fragile. Allô, maman, bobo. Maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô, maman, bobo. Allô, maman, bobo. Traîne fumée, je me retrouve avec mal au cœur. J'ai vomi tout mon 4 heures. Faites nuit folle avec les jambons du bol. Maintenant que je fais du music-hall. Mal à la scène et mal en ville, peut-être un petit peu trop fragile. Allô maman bobo, maman comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô maman bobo, allô maman bobo. Moi je voulais les sorties de port à la voile. La nuit parée des étoiles. Moi, les chevaux, le revolver et le chapeau clown. La belle Peggy du saloon. J'suis mal en homme dur et mal en petit cœur. Peut-être un petit peu trop rêveur. Allô, maman, bobo. Maman, comment tu m'as fait, j'suis pas beau. Allô, maman, bobo. Allô maman bobo. Je marche tout seul le long de la ligne de chemin de fer. Dans ma tête y'a pas d'affaire. Je donne des coups de pied dans une petite boîte en fer. Dans ma tête y'a rien à faire. Je suis mal en campagne, je suis mal en ville. Peut-être un petit peu trop fragile. Allô maman bobo. Maman comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô maman bobo. Allô maman bobo. Allô maman bobo. Allô, maman, bobo.
Voilà, allô maman, bobo, c'était Alain Souchon. Alors, Pascal Parinet, comment on voit les effets de cet idéal qui nous dévalorise ?
Voilà, ben, la première chose, c'est de ne pas se sentir à la hauteur, de ne pas se sentir aimable, ou de ne pas se sentir aimé, enfin, de ne pas s'aimer soi-même, ou encore d'être sans arrêt dans l'autocritique, comme par exemple de dire « c'est idiot, c'est bête ». Tout à l'heure, l'auditrice disait, quand elle n'avait pas pu parler dans le micro, elle a dit « après, je me suis dit que j'étais sotte ».
Mais là, c'est d'une façon, oui.
Alors, il y en a qui disent « je suis nul, je suis méchant, je suis mauvais ». J'ai rien à dire d'intéressant.
Oui, ça prend toutes ces formes négatives,
voilà.
Quoi. Hein.
Tout ça, il y a et la question de hauteur ou d'amour de soi, et la question de l'autocritique. Ces deux aspects-là, c'est vraiment qu'on... Voilà, il y a... On se compare à quelque chose d'idéal.
Oui. Alors... C'est, on parlait aussi, c'est comme des parasites en fait.
Ce sont des parasites parce que finalement, ça vient nous prendre notre vie, notre énergie
ça,
vitale.
Ça vit au dépens, au crochet.
Ça vit à nos crochets. Parce que c'est pas vraiment nous, ce sont des choses qui soit des paroles qu'on a entendues d'une façon explicite ou implicite, quand on est dans l'autocritique, ce sont, en tout cas, ce sont des choses qui nous sont venues de l'extérieur et qui ont été mal intégrées.
Alors, comment alors retrouver une juste image de soi ?
Alors,
quelques conseils ?
Ben, y a un aspect, c'est de prendre conscience de cet idéal. Alors, c'est souvent difficile quand même d'en prendre conscience en dehors d'une thérapie parce que c'est quelque chose d'inconscient. Mais ça reste possible en se posant la question de ses attentes, des attentes qu'on a sur soi-même, et puis de retrouver dans son enfance des images idéalisées de ce qu'on aurait aimé être, par exemple, ou alors les héros de son enfance. Voilà, parfois, l'enfant, il rêve d'être un héros de film, de bande dessinée.
Donc ça met un idéal...
Et ça lui met un idéal qui va garder en lui et pas de l'intégrer. En fait, quand c'est intégré, ça serait...
Ça aide au contraire.
Ça serait découvrir les valeurs du héros,
oui.
Comme la justice ou des choses
courage,
comme ça.
Le courage, oui.
Et en faire des valeurs guides.
Oui, qui aident, qui dynamisent.
Oui, mais quand c'est pas intégré, en fait, la personne, ce qu'elle
ça
garde,
la bloque.
C'est l'image du héros et elle doit être comme le héros.
Et ça
voilà,
bloque.
Et du coup, quand elle se compare sans arrêt à ça et elle n'est pas à la hauteur.
Et donc, on voit bien la différence. Hein.
Voilà. Donc, de retrouver ces images de héros de l'enfance ou de ou encore les personnes de sa famille qui ont été montrées comme idéales. On a dans toutes les familles des personnes idéales auxquelles faudrait correspondre. Et puis, toutes les personnes qu'on a admirées comme des dieux. Alors,
ce sont des images collées finalement et
voilà,
qui sont parasites.
Et qui sont parasites.
Oui, oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore ? Comment retrouver...
Alors, prendre conscience après de toutes les pensées d'autocritique et de jugement sur soi-même. Et à chaque fois qu'on se juge, de se poser la question si c'est juste ou si c'est quelque chose qu'on a entendu de nous ou qu'on a entendu dans notre enfance. Voilà. Donc vraiment être conscient à chaque fois qu'on dit c'est bête, c'est idiot, toutes ces paroles.
Oui, est-ce que ce sont des paroles qu'on a entendues qui sont collées sur...
Qui sont collées sur nous. Voilà, et à travers ces pensées, ces jugements, prendre conscience finalement de l'image qu'on a de soi. Et la transformer, en faire quelque chose de juste, parce que dans tout aspect, c'est ce que je disais tout à l'heure, toute qualité,
il y a le
revers qui est le défaut,
et inversement.
Tout défaut, il y a un revers.
Il y a toujours un côté ombre, un côté lumière.
Un côté ombre et lumière dans toute chose. Et donc, du coup, si on voit que l'ombre, se poser la question, mais cette ombre que je vois, quel est son côté lumière ?
Voilà.
Et puis, alors,
si on
pour ceux,
de la lumière,
ceux
voir
qui
le côté
voient
ombre.
Que de la lumière en eux, il faut aussi qu'ils se posent la question de...
Quelle est l'ombre ?
Quelle est l'ombre ?
Alors, comment retrouver alors la confiance dans ces situations aussi ?
Alors, après, c'est important de poser des actes. Hein. On a beaucoup parlé d'expérimenter, mais de poser des actes en accord avec soi-même.
Oui. Hein.
Ça peut être, par exemple, de dire ce qu'on pense, d'exprimer ses sentiments, de réaliser ses désirs. Sans trop se poser la question au début si on fait des erreurs, si c'est bien fait, si c'est mal fait, c'est déjà d'expérimenter.
Oui.
On cherche pas la perfection, mais de vérifier que c'est possible de se faire confiance.
Voilà.
Voilà. Et puis c'est comme quand on commence à une activité. Au début, on apprend, c'est pas parfait, et puis plus on s'entraîne mieux on y arrive.
Donc avoir cet objectif et cette vision là.
Voilà, garder cette vision, commencer par des petites choses, un peu comme la petite Thérèse. De façon à ce qu'il n'y ait pas un enjeu important et de redonner progressivement confiance en soi. Vaut mieux se dire qu'on va monter une petite colline que de s'attaquer au Mont Blanc ou à l'Himalaya tout de suite.
Et on
peut l'étendre à tous les domaines de la vie pour entrer dans un cercle vertueux.
Alors là, c'est poser des actes et ensuite alors.
Alors, ensuite, c'est d'être soi-même, c'est-à-dire de se libérer de cette image et du regard des autres. Et finalement, être soi-même, ça va être d'accepter d'être différent des autres, d'abord, parce que...
Et d'être soi.
On est tous différents. Et puis, d'accepter de laisser vivre l'amour qui est en soi. Parce que nos talents, on va les trouver à travers les choses qu'on aime. Être soi, c'est s'autoriser aussi à aimer faire des choses, à trouver du plaisir. Peut-être pour les personnes timides qui ont une mauvaise image, d'apprendre à trouver du plaisir, à parler avec les autres.
C'est ça, oui.
Et à ce moment-là, on peut exprimer vraiment ce qu'on est quand on a plaisir à partager avec quelqu'un. Si on est dans l'angoisse, c'est beaucoup plus difficile. Voilà, donc c'est trouver du plaisir dans la relation, dans le fait de parler aux autres.
Et donc, c'est l'amour qui finalement va s'exprimer à travers ses talents.
Voilà. Parce que
nos
talents expriment ce qu'il y a au plus profond de nous et ça, c'est une manifestation de l'amour qu'on porte pour certaines choses en nous.
Et alors être soi-même, ça s'exprime aussi de quelle façon ?
Alors en devenant responsable de sa vie.
Oui.
C'est-à-dire d'assumer sa condition humaine, d'assumer ses erreurs comme ses réussites, finalement d'assumer ce qu'on est
et
d'en être Voilà. Ce qui veut dire d'accepter. Et accepter, c'est pas se résigner, ça je le redis à
oui,
chaque
c'est
fois,
important.
Ça n'empêche pas de progresser. D'accepter son histoire aussi, son passé, pour se construire. Parce que tant qu'on n'accepte pas son histoire, on ne peut pas se construire un avenir. D'accepter le présent, la réalité présente, pour pouvoir la changer.
Oui.
D'accepter ce qu'on appelle ses manques,
ses faiblesses,
alors peut-être les voir plutôt comme des fragilités que comme des faiblesses. Voilà, parce qu'on est humain, on est fragile. Pour arrêter de chercher à les compenser, d'accepter ses excès aussi. Tout à l'heure, il y a le témoignage.
Oui, c'est ça.
D'accepter
André,
aussi ses excès en sachant que ça apporte à d'autres. Et puis finalement, de s'accepter tel qu'on est pour vivre vraiment dans l'instant présent avec les autres.
Merci Pascal Farinet. Alors il y avait Michel qui nous disait qu'il est passé par tous les stades, hein, que ça a été une lutte continue pour lui.
Hein. Oui, alors c'est, on pourrait dire, un apprentissage.
Oui.
Pour vaincre la timidité, c'est apprendre par l'expérience à gérer les situations nouvelles.
Voilà, oui. Alors Yves, lui, il dit qu'il y a des phobies. Il a des phobies, mais c'est autre chose, des phobies. Prononcer certains mots lui gâche la journée, mais les phobies, c'est autre chose.
Voilà, alors les phobies, c'est complètement autre chose, même si la phobie sociale rejoint la timidité, mais en quelque chose de beaucoup plus grave. Les phobies, c'est autre chose. Après, prononcer certains mots, ben, il faudrait qu'il se fasse aider, qu'il consulte quelqu'un.
Alors,
pour
il y a
libérer.
Oui, Roselyne, elle n'est pas timide dans le quotidien. Mais dans la pratique d'un art martial, devant un jury, elle a la tête vide, enfin, etc. Elle est paralysée quand elle va être jugée, évaluée.
Voilà, alors ça, c'est l'enjeu qu'elle y met.
Ben oui, c'est
finalement,
ça.
Pratiquer un art martial ou toute activité, c'est un loisir. Même si on fait des compétitions, et je crois que c'est vraiment prendre ça comme un plaisir sans y mettre d'enjeu, peu importe si elle passe sa ceinture ou pas.
Merci Pascal Farinet, merci à tous nos auditeurs, merci à Marie-Françoise et Catherine au standard, à Guillaume à la technique. Cette émission est disponible sur CD. Demain à 22h, écoute dans la nuit, notre invitée sera Victoire Dégèse, qui est conseillère en orientation et accompagnatrice en process communication, passionnée par l'éducation, elle-même mère de famille. Elle aide de nombreux parents à prendre du recul, à accompagner l'enfant vers son autonomie et sa maturité. À partir de son ouvrage paru chez Teki, Aimer et guider son enfant, 10 clés pour développer ses talents. Très bonne nuit à tous, à demain.
Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotredame.com.
En ce jour qui s'achève, nous nous tournons vers la Vierge Marie et nous la prions avec les moniales bénédictines de l'abbaye Saint-Michel de Kergonan.